Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelques réflexions sur les interdictions tous azimuts. Un texte de Normand Landry et Joël Basque, paru le 6 décembre 2024 dans La Presse. Normand Landry et Joël Basque sont professeurs en communication, Université Teluc. Face à ce qui est présenté comme une crise de santé publique, les voix se multiplient au Québec pour réclamer des interdictions de toutes sortes aux écrans ou aux plateformes numériques. Les argumentaires derrière ces mesures reposent sur trois piliers. D'abord, la préservation du bien-être des jeunes, dont la santé physique et mentale est menacée par le temps écran, exige action. Pour appuyer ces arguments, on cite abondamment des études sur les effets néfastes d'une exposition prolongée aux écrans et aux réseaux sociaux. Ensuite, on fait état de l'incapacité des milieux familiaux à faire face au phénomène. Les parents, désemparés, se tournent vers l'État pour la mise en œuvre des mesures coercitives. Ainsi présentées, les restrictions d'accès aux médias numériques que l'on souhaite imposer aux jeunes s'inscrivent dans des politiques de soutien à la famille. Enfin, on note les incapacités des écoles elles-mêmes à gérer les écrans et on dénonce la soumission des acteurs scolaires à une idéologie du « tout numérique ». Nous pensons que le cadre général du débat est très mal posé. Nous présentons ici une lecture tout autre du problème auquel des appels maladroits aux interdictions d'accès aux plateformes numériques prétendent s'attaquer. En premier lieu, la situation actuelle nous semble être la conséquence directe de l'abdication de la classe politique face à ses responsabilités. Elle se refuse à réglementer correctement les grands acteurs du numérique et à les forcer à rendre des comptes quant aux effets néfastes de leur modèle d'affaires, notamment, mais pas exclusivement, car bien d'autres enjeux sont en cause, sur la santé de nos enfants et de la jeunesse. Nous accusons un inexcusable retard en matière de réglementation, notamment d'encadrement fiscal et de responsabilisation face aux contenus trompeurs, haineux et addictifs. Retard qui ne s'explique que par un manque flagrant de volonté politique. En deuxième lieu, cette même classe politique se refuse à accorder les ressources nécessaires au développement de la littératie numérique de nos enfants. Les aides et les financements apportés au milieu scolaire, communautaire et familiaux, sont largement insuffisants. Le désarroi des acteurs aux prises avec des enjeux éducatifs s'explique par la pauvreté des mesures de soutien qui leur sont accordées. Le déploiement de nouveaux programmes éducatifs intégrant les préoccupations associées aux écrans ne pourra donner des résultats que si les conditions matérielles, financières et humaines sont accordées aux spécialistes des milieux éducatifs. Sur ce point, nous demeurons profondément pessimistes. Et pourtant, tout un domaine de savoir scientifique et pratique que l'on appelle « éducation aux médias » atteste de l'efficacité des mesures visant le développement des compétences numériques des jeunes afin de contrer les effets néfastes de l'exposition aux écrans. En troisième lieu, la crise des écrans est d'abord et avant tout une crise de la parentalité. Elle s'inscrit dans un contexte où les parents sont épuisés, surchargés, précarisés et vulnérabilisés, et où les écrans trouvent des usages palliatifs quotidiens. Occuper les enfants, désamorcer une crise, servir de monnaie d'échange, maintenir la discipline. Cette crise des écrans est en fait un symptôme parmi d'autres, d'un mal que l'on se refuse de nommer. Les parents souffrent. Nous traversons une crise de la parentalité et nos politiques familiales sont désormais inadéquates. Le concept du temps écran. Enfin, et surtout, les discours prédominants sur les interdictions numériques déconsidèrent radicalement les perspectives et les pratiques des jeunes. Le concept de temps-écran occulte bien plus qu'il n'éclaire. Il amalgame des pratiques fréquemment créatives, artistiques, éducatives et sociales. Ces outils, tant décriés, sont au cœur de la vie active de nos enfants. Ceux-ci en font des usages étonnamment réflexifs et variés. Ils font sens de leurs pratiques. Nous suggérons, ainsi, que l'on change de registre. Plutôt que de réclamer de bêtes interdictions tous azimuts, tenons responsables nos représentants politiques. Qu'ils et elles se mettent au travail pour réglementer enfin de manière adéquate les géants du numérique. Qu'ils et elles accordent au milieu éducatif les ressources et les moyens dont ils ont désespérément besoin. Et qu'ils et elles agissent pour faire face à la crise actuelle vécue par les parents québécois. Il nous incombera également, à toutes et à tous, de nous interroger sur la considération que nous accordons aux pratiques numériques de nos enfants. Il nous faudra réévaluer notre capacité à les écouter et à les comprendre. Peut-être devrions-nous aussi marquer un temps d'arrêt et nous interroger nous-mêmes sur les usages que nous faisons des écrans pour être en mesure de mieux accompagner nos enfants dans leur rapport au numérique. Qui sait? Nous pourrions saisir cette occasion pour renforcer des liens avec eux, que l'on sait désormais plus ténus, plus fragiles que jamais. C'était « Quelques réflexions sur les interdictions tous azimuts », un texte de Normand Landry et Joël Basque, paru le 6 décembre 2024 dans la presse.
Les Québécois tiennent à la viande et à leur voiture. Un texte de Marco Jean, paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. Une forte majorité de Québécois reconnaît l'urgence climatique et le besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ils ne sont pas prêts à changer leur régime alimentaire pour lutter contre cette crise et ils sont toujours attachés à leur voiture à essence. Ces constats se dégagent de la plus récente édition du Baromètre de l'action climatique, un projet élaboré par le groupe de recherche sur la communication marketing climatique de l'Université Laval. Le document, publié en décembre 2024, permet de constater que 82% des Québécois reconnaissent l'urgence d'agir contre la pire crise environnementale de l'histoire. La majorité de la population estime d'ailleurs faire des gestes pour le climat, mais elle n'est pas prête à réduire sa consommation de viande, 39% des répondants le font, ou de produits d'origine animale, 23% des répondants le font. La réduction de la consommation de viande figure parmi les habitudes les moins adoptées. Même s'il s'agit d'un des gestes les plus utiles pour réduire notre empreinte climatique, la diminution de cette consommation et celle d'autres produits animaliers demeure un défi, résume Valériane Champagne-Saint-Arnaud, professeure à l'Université Laval et autrice principale de cette 6e édition du Baromètre de l'action climatique. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, a pourtant souligné dans ses plus récents rapports la nécessité de se tourner vers une diète à base de plantes. Il faut dire que l'agriculture représente, dans son ensemble, environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, GES, et près de la moitié des émissions du secteur sont imputables à l'élevage. Dépendance à la voiture. Madame Champagne-Saint-Arnaud constate aussi, année après année, la forte dépendance des Québécois à la voiture. Les trois quarts de la population, 76%, l'utilisent régulièrement, devant les transports collectifs, 12%, les transports actifs, 9%, et le covoiturage ou service d'autopartage, 3%. Ce choix d'utiliser la voiture s'explique toutefois en bonne partie par l'absence d'infrastructures de mobilité durable. Les Québécois n'en sont pas moins nombreux, 83% de la population, à déclarer qu'ils agissent. Les gestes les plus couramment cités comme exemple sont entre autres le recyclage 93 % la réduction du gaspillage alimentaire 85 % le fait d'acheter seulement ce dont j'ai besoin 74 % ou encore la réduction des déplacements en avion 63 %. Valériane Champagne-Saint-Arnaud estime cependant qu'il faut poser un regard critique sur certaines de ces réponses qui peuvent être influencées par un biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire le réflexe de songer à la bonne réponse à donner, d'un point de vue sociétal. Elle rappelle par exemple que même si 40 % des répondants disent opter pour un véhicule de taille minimale pour répondre à leurs besoins, la tendance est aux véhicules plus gros et plus lourds. L'édition 2024 du baromètre de l'action climatique permet en outre de constater une montée de l'essoufflement de l'engagement individuel. 24 % contre 20 % en 2023 des répondants disant faire déjà le maximum possible. C'est une source de préoccupation de voir qu'à l'échelle individuelle, de plus en plus de personnes affirment faire tout ce qu'elles peuvent alors que les gestes les plus importants pour réduire leur empreinte individuelle tardent encore à être adoptés, fait valoir Mme Champagne-Saint-Arnaud. Mieux éduquer pour s'attaquer à la crise. Selon elle, cela indique aussi le besoin de rehausser les efforts collectifs, surtout que le Québec est toujours très loin de l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de GES. Ces efforts passent par une meilleure éducation aux défis climatiques, mais aussi aux moyens à prendre pour s'attaquer à la crise. Pour la première fois, les chercheurs qui pilotent ce projet universitaire ont d'ailleurs évalué le niveau de connaissance des Québécois. Le taux de réussite moyen des questions sur les solutions collectives à la crise climatique est de 60 % et une minorité comprend que la solution la plus efficace consiste à limiter les émissions de GES à la source. De plus, seulement 9 % de la population comprend que la plantation d'arbres ne permet pas de capter rapidement les gaz à effet de serre déjà présents dans l'atmosphère. Il est important de doter la population de la plus forte littératie climatique possible pour que les gens puissent porter un jugement éclairé sur ce qui leur est proposé par les différents partis politiques, affirme donc Valériane Champagne-Saint-Arnaud, d'autant plus que les décisions des gouvernements décideront de l'avenir du climat. La professeure souligne aussi le besoin de mieux mettre en lumière les impacts du réchauffement, mais aussi l'urgence de l'adaptation, puisque seulement 39 % de la population considère la crise comme une menace élevée à court terme pour le Québec. S'adapter, ça ne pourra pas débuter dans 10 ans. C'est urgent de le faire. Mais pour s'adapter, il faut comprendre l'urgence de la menace, et ce n'est pas encore le cas pour une majorité de la population québécoise. Méthodologie du baromètre. Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d'une enquête réalisée par questionnaire en ligne auprès d'un échantillon de 2513 personnes. La collecte de données a été réalisée par la firme Léger du 17 septembre au 12 octobre 2024. Afin de composer un échantillon représentatif de la population à l'étude, les résultats ont été pondérés selon la région, le sexe, l'âge, la langue maternelle, le niveau de scolarité et le nombre d'enfants dans le ménage. Le questionnaire a été élaboré par le groupe de recherche à partir des plus récents écrits scientifiques en communication climatique, marketing social et psychologie environnementale, précise le document. C'était « Les Québécois tiennent à la viande et à leur voiture », un texte de Marco Jean paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir.
Pour en finir avec les transfuges de classe, un texte de Marie-France Bazot, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. Je suis une authentique transfuge de classe. Mon père était débardeur à l'époque où ils étaient mal payés et déchargeaient les bateaux à dos d'hommes. Nous vivions modestement. Nous mangions des choses que je n'ai plus mangé ensuite. N'achetions jamais de vêtements. Ma mère les cousait. Je détestais ça. Le jour où j'ai commencé à travailler à Radio-Canada, le montant de ma paye était le même que celui de mon père en fin de carrière. J'étais honteuse. Je veux vous parler des transfuges de classe, car malgré mon parcours exemplaire de transfuge, pauvreté, dignité, ascension sociale, honte, je crois qu'il y a un bout à tout et qu'il va falloir en revenir. Je n'ai pas changé de classe parce que je me suis battue, que j'ai des qualités extraordinaires. Non, ce n'est pas un accomplissement individuel, mais le fruit d'un mouvement collectif. Qu'est-ce qu'un transfuge de classe? Du latin transfuga, déserteur, d'abord utilisé dans le milieu militaire, puis en politique. Associé à la trahison, définition moderne, personne ayant accédé à une classe différente de celle dont elle provient. Concept social, pour décrire un mouvement de mobilité sociale ascendante. Ça a engendré un genre littéraire très fréquenté en France, avec des récits personnels, dont ceux d'Édouard Louis, en finir avec Eddie Bellegueule, et d'Annie Ernaux, nobelisée en 2022, deux figures de proue. La France est hyper hiérarchisée, les frontières de classe y sont quasi infranchissables. Le succès du genre n'est pas si étonnant. Il procure un sentiment de vengeance. Au Québec, société plus fluide, le succès de « Rue Duplessis » de Jean-Philippe Plot est foudroyant. Plusieurs s'y reconnaissent. Il met des mots sur leur histoire. On ne manque pas de brillants auteurs issus de ce courant. Caroline Dawson, « Là où je me terre » et Francis Ouellet, « Mélasse de fantaisie » en sont de bons exemples. Mais pourquoi un tel attrait? Peut-être parce que dans une société de plus en plus inégalitaire, le récit du transfuge est un espoir, une soupape. Cette société sans cœur en laisse gagner quelques-uns. Un mythe qui rend la vie plus supportable. Peut-être aussi parce que tout le monde aspire à faire partie d'un grand récit d'émancipation. L'histoire du transfuge de classe est le moyen, avec son style scripté, son parcours, son vocabulaire typé. On a tendance à voir dans ces récits des histoires uniques. Ils se sont affranchis de leur misère, ils ont réussi. C'est la magie de Rue Duplessis. C'est aussi l'angle mort du cas de Plot et des transfuges de classe au Québec. Ici, jusqu'à la fin de ce qu'on a appelé la Grande Noirceur, la société était simple et plutôt pauvre. La petite bourgeoisie locale et la grande bourgeoisie majoritairement anglophone dominaient, la classe moyenne était balbutiante. Pour le Canadien français, l'éducation et le rêve du collège classique relevaient du privilège réservé à une minorité, ce par quoi on s'élevait ou qu'on transmettait. 1960, révolution tranquille. 1964, rapport parent qui mène à la création du ministère de l'Éducation. L'école devient gratuite et obligatoire jusqu'à 14 puis 16 ans. Des cohortes entières d'enfants nés à la fin des années 1950 peuvent maintenant entrer à l'école publique et espérer y poursuivre leur scolarité jusqu'au cégep, voire à l'université avec le nouveau réseau de l'Université du Québec. Un peuple de semi-illettrés qui quittait précocement l'école à 13 ou 14 ans va maintenant à la polyvalente. Les nouveaux diplômés ont accès à de bons emplois et forment massivement une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Ils enorgueillissent leurs parents. C'est un projet voulu, souhaité, un mouvement social spectaculaire. Ce ne sont pas des individus qui se sont démarqués par miracle, mais bien trois ou quatre générations, de la fin des boomers jusqu'aux plus jeunes des X, que le Québec aura promue grâce à un système d'éducation gratuit rêvé par des visionnaires démocrates et généreux. Car c'était le plan. L'émancipation pour tous. Il a réussi. Nous sommes des centaines de milliers de transfuges de classe. Le paradoxe est qu'une fois que ces générations eurent accédé à l'aisance culturelle et économique, le système d'éducation publique s'est enrayé. Le mouvement des transfuges de classe, manufacturé par une école publique de qualité, s'est arrêté fin 1990. Il est cassé. C'est dorénavant le privé et le public à vocation particulière qui forment les élites au Québec. C'est d'ailleurs pourquoi Guy Rocher milite encore pour une suite au rapport Parent. Les récits mythifiants de transfuges surviennent à un moment où, pour la première fois depuis longtemps, la mobilité sociale est descendante. Donc, où les enfants auront de moins bons revenus que leurs parents. L'ascenseur social est en panne. Mais alors, au fond, qu'est-ce que le récit de transfuge de classe? Une excuse? Une vantardise victimaire? Une doudou rassurante en ces temps économiques et sociaux rudes? Comme à peu près tous les Québécois de ma génération et de quelques autres, je suis une transfuge et je le dois à notre système collectif. Modestie et gratitude. Et vivement la suite. C'était, pour en finir avec les transfuges de classe, un texte de Marie-France Bazot, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse.
Apprendre à vivre avec la peur de voir le cancer récidiver, un texte de Florence Morin-Martel paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. En mai 2024, Jennifer Fraisa a reçu un diagnostic de cancer du sein. Ses traitements ont pris fin en septembre, mais la peur de voir la maladie refaire surface, elle, demeure constante et écrasante. Pour apprendre à vivre avec cette crainte, elle participe à une nouvelle thérapie du groupe au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, à Montréal. La peur d'une récidive se manifeste dans les petites choses du quotidien, raconte Mme Fraisa. Quand j'ai mal à la tête ou au dos, ce n'est généralement rien. Et avant d'avoir cette maladie, je prenais un comprimé de Tylenol et je continuais ma journée normalement. Mais maintenant, c'est comme si, tout d'un coup, je mettais ma vie sur pause en me demandant si le cancer est en train de revenir. C'est horrible, ajoute la Montréalaise de 52 ans. Avec 9 autres femmes rongées par les mêmes craintes, Jennifer Fraisa doit prendre part à 6 séances d'une durée d'1 h 30 à 2 h. Ces rencontres, chapeautées par une équipe multidisciplinaire, doivent avoir lieu à l'hôpital Royal Victoria du CUSUM. Les participantes, qui sont âgées de 45 à 67 ans, ont en commun d'avoir terminé leur traitement pour un cancer du sein ou de l'appareil reproducteur féminin, comme celui du col de l'utérus ou des ovaires. La peur d'une récidive affecte tous ceux qui ont eu un cancer, mais elle touche généralement plus les femmes, explique Samara Pérez, psychologue du programme psychosocial en oncologie du CUSUM. Le fait de parler de ces craintes au sein d'une thérapie de groupe peut contribuer à diminuer l'anxiété, souligne celle qui est aussi chercheuse associée à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, IR-CUSUM. Après la fin de leur traitement, plusieurs patients se sentent seuls, poursuit-elle. L'idée est de les aider à rétablir une routine et de les soutenir dans leur retour au travail, par exemple. Le nouveau programme au CUSUM s'appuie sur une recherche menée par Sophie Lebel, professeure à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa, et Christine Maheu, professeure associée à l'École des sciences infirmières INGRAM de l'Université McGill et chercheuse au programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSUM. Au Canada, 4 autres centres hospitaliers se sont d'ailleurs basés sur l'étude de Mesdames Lebel et Maheu afin de mettre en place des séances à propos de la peur des récidives. Il s'agit de l'hôpital Princess Margaret à Toronto, de l'hôpital d'Ottawa, du Cancer Care Eastern Health à Terre-Neuve et Labrador et du Cancer Care au Manitoba. Tolérer l'incertitude. Le but des séances est de développer une tolérance à la peur et à l'incertitude, dit Samara Pérez, qui est également professeure adjointe au département d'oncologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. On ne peut pas éliminer complètement ses émotions, ce n'est pas réaliste. On essaie alors plutôt de se dire qu'on va vivre avec ses craintes et qu'il y aura des moments difficiles. Pour y parvenir, les 10 femmes apprendront différentes stratégies d'adaptation visant à gérer la peur d'une récidive, des exercices de pleine conscience et plusieurs techniques de relaxation en vue d'examens d'imagerie par résonance magnétique. Une infirmière leur donnera également de l'information au sujet des symptômes des récidives à surveiller et des suivis médicaux après la fin des traitements pour un cancer. Il sera aussi notamment question de repérer certains schémas de pensée qui peuvent tenir une personne dans un état d'anxiété constant, comme la pensée « noir ou blanc », explique la psychologue. Cela se manifeste par exemple lorsque quelqu'un va tout de suite croire que le cancer est revenu s'il ressent certains symptômes. « Nous voulons être plutôt dans le gris et non dans les extrêmes. Il y a peu de choses dans la vie qu'on sait avec certitude. » Lorsque l'anxiété prend de l'ampleur, elle peut devenir étouffante, témoigne Jennifer Fredza en baissant la voix. Je me mets parfois à tout questionner. Est-ce que je verrai mes deux enfants se marier? Vais-je connaître mes petits-enfants? Vais-je atteindre tous les objectifs que je me suis fixés? En participant au programme, Mme Fredza espère pouvoir réussir à se réapproprier son corps et son esprit. Elle souhaite y apprendre à mieux vivre avec les conséquences physiques et émotionnelles de sa maladie. Lorsque les traitements pour le cancer se terminent, le parcours des patients continue. Cela fera partie de nos vies pour le reste de nos jours, dit-elle. Après ces 6 rencontres qui débutaient mercredi au CUSUM, une deuxième cohorte commencera la thérapie de groupe au printemps 2025. Notre but est d'en faire un service qui sera toujours disponible et accessible ici, indique Mme Pérez. La vie est précieuse, pleine de bonheur, mais aussi difficile. Si je peux aider un patient à améliorer sa qualité de vie, j'ai bien fait mon travail. C'était « Apprendre à vivre avec la peur de voir le cancer récidiver », un texte de Florence Morin-Martel paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.